Ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 14 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au moins 4 jeunes manifestants et un gendarme ont été tués en Guinée dans des heurts entre les forces de sécurité et des opposants au troisième mandat. En RDC, 3 morts et 7 blessés dans une embuscade attribuée aux rebelles ADF. Kais Saied a été élu président de la Tunisie avec 72,71% des voix au second tour dimanche, a annoncé l'instance électorale. Bachar el-Assad envoie des troupes dans le nord de la Syrie où la Turquie s'est engagée dans une offensive. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Guinée, au moins 4 manifestants et un gendarme ont été tués dans des heurts entre les forces de sécurité et des opposants au troisième mandat. 4 jeunes sont morts sous les balles des forces de l'ordre dans la capitale, ont rapporté un médecin et des proches. Le gouvernement a pour sa part fait état d'un gendarme tué par balle dans la ville de Mamou, à l'est de Conakry, et d'un habitant tué dans la capitale dans des circonstances qui restent à élucider. Plus de précisions avec Yacouba Ouédraogo.
Des échauffourées suivies d'arrestations ont été rapportées dans les quartiers de Cimenteri, Wanindara ou Dar es Salaam, ont indiqué des témoins. Des barricades ont été dressées dans les rues et des pneus brûlés sur la chaussée. Plusieurs quartiers de la capitale ont été le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre déployées massivement et des manifestants répondant à l'appel lancé par le Front National pour la Défense de la Constitution. Cette coalition de partis d'opposition, syndicats et des membres de la société civile s'oppose à une révision de la Constitution évoquée par le pouvoir. Ce front estime qu'une telle révision permettrait à Alpha Condé de se présenter en 2020 pour un troisième mandat, alors que la Constitution actuelle limite le nombre de mandats à 2.
L'ancien chef de la rébellion ivoirienne et ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a dit avoir fait l'objet d'une tentative d'arrestation à Barcelone en Espagne, mais les autorités nient avoir saisi Interpol. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, une escouade d'agents de la police espagnole a tenté de l'arrêter au Palace Hotel de Barcelone, affirmant agir sur des instructions d'Interpol, a affirmé André Dea, vice-président du MVCI. Ce dernier reprenait des déclarations de Guillaume Soro à Valence qui affirmait avoir appelé le siège d'Interpol à Lyon et que celui-ci n'était pas informé d'une procédure contre lui. La Cour suprême de Guinée-Bissau a validé les dossiers de candidature de 12 des 19 prétendants à l'élection présidentielle prévue le 24 novembre, dont celui du président sortant José Mario Vaz. Les 7 candidatures recalées, dont celle de l'unique femme, la sociologue Nancy Schwartz, peuvent faire l'objet d'un recours dans les 48 heures. José Mario Vaz, 62 ans, se présentera en qualité d'indépendant faute d'avoir obtenu l'investiture d'un parti. Sa victoire en 2014 avait marqué un retour progressif à la légalité constitutionnelle dans ce pays à l'histoire jalonnée de coups d'État. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 3 personnes ont été tuées, 7 autres blessées et des personnes sont portées disparues depuis une embuscade attribuée aux rebelles des ADF à Beni. Eddy Issango nous en dit plus.
Dona Kibwana, administrateur du territoire de Beni, a affirmé que les ADF ont tendu une embuscade et tiré sur un véhicule de commerçants qui quittait Oicha pour le marché des Ringeti. L'armée est arrivée sur les lieux, il y a eu quelques tirs, a ajouté M. Kibwana, indiquant que les miliciens avaient disparu dans la bourse après leur forfait. Les rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées, ou ADF, sont présents dans l'est de la RDC depuis 1994. Ils sont accusés du massacre des milliers de civils et des enlèvements dans la région de Beni. Dans un meeting jeudi à Beni, le président Félix Tshisekedi a annoncé que son pays s'apprête à lancer la dernière attaque contre les combattants ADF dans les jours à venir afin de les exterminer définitivement. L'armée congolaise a reconnu avoir perdu 1662 militaires dans les affrontements avec ses miliciens depuis 2014.
La maladie à virus Ebola ressurgit dans l'Ituri malgré la diminution de nouvelles contaminations. Le secteur touché est l'aire de Maroro dans la zone de santé de Niakoundé, indique le dernier bulletin du ministère de la Santé. Cette zone était à 294 jours sans notifier un nouveau cas confirmé. Un cas d'Ebola a été signalé parmi 6 cas rapportés. 429 cas suspects sont en cours d'investigation, indiquent les autorités sanitaires. Les médecins en grève depuis 6 semaines au Zimbabwe pour une revalorisation de leur salaire ont exclu ce lundi de mettre fin à leur mouvement, défiant une décision de justice qui leur a ordonné de reprendre leur travail. Vendredi, la justice a déclaré illégale cette grève et exigé qu'ils reprennent le travail dans les 48 heures. Dimanche, l'association zimbabwéenne des médecins des hôpitaux à l'origine du mouvement a annoncé qu'elle allait faire appel de cette décision. L'universitaire Kais Saied a été élu président de la Tunisie avec 72,71% des voix lors du second tour dimanche, a annoncé l'instance électorale. Hier soir, des milliers de personnes ont fêté dans la rue la très large victoire de l'universitaire. Plus de précisions avec Irénée Hermanungbo.
Kais Saied a obtenu 2,67 millions de voix contre 1 million pour son adversaire, l'homme d'affaires controversé Nabil Kaouri, selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Juste après l'annonce de ces résultats, des milliers de Tunisiens sont descendus dans le centre de la capitale pour manifester leur joie. Cet jour historique s'est réjoui Boussaïri Abidi, un mécanicien de 39 ans. Lors d'une brève apparition, Kais Saied a quant à lui remercié les jeunes qui ont ouvert une nouvelle page de l'histoire. Environ 90% des électeurs de 18 à 25 ans ont voté pour lui selon les instituts de sondage à Sigma. « Je vais porter ce message de la révolution de 2011 », a-t-il lancé. « Chacun a choisi qui il voulait en toute liberté. Notre projet est basé sur la liberté. L'époque de la soumission est finie », a-t-il assuré. Son rival Nabil Kaouri, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment, a déploré un déni de justice, estimant avoir été pénalisé par son incarcération pendant 49 jours en pleine campagne électorale.
Au Maroc, un Suisse condamné à 10 ans de prison pour constitution de bande terroriste a vu sa peine réduite à 5 ans. Nicolas P. a été arrêté le 10 janvier à Témara à la suite du meurtre de 2 jeunes femmes scandinaves en décembre dans l'Atlas. Selon son avocat, l'homme de 33 ans a été arrêté pour avoir reçu un email de l'hispano-suisse Kevin Zoller-Gervos, l'un des 24 hommes poursuivis pour ce double meurtre. Nicolas P. est aussi accusé d'avoir eu des échanges explicites avec d'autres Suisses soupçonnés dans leur pays de liens avec la Syrie. Les principaux suspects ont été condamnés à la peine capitale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le régime syrien a envoyé ses troupes lundi dans le nord du pays pour tenter de stopper l'offensive turque contre les forces kurdes qui ont appelé à l'aide après l'annonce d'un départ des soldats américains de cette région. Le point avec Bagassi Koura.
Quelques 1000 soldats américains qui étaient déployés dans le nord de la Syrie pour aider les forces kurdes dans leur combat contre le groupe État islamique ont reçu l'ordre de quitter. Selon un responsable américain, ce retrait concerne tous les militaires déployés en Syrie, sauf ceux se trouvant à Al-Tanaf, une base contrôlée par quelques 150 soldats américains dans le sud de la Syrie. Face à la progression depuis le 9 octobre des forces turques de leurs supplétifs syriens qui ont conquis de vastes secteurs dans le nord syrien, et à l'annonce dimanche d'un retrait américain, les forces kurdes ont réclamé un déploiement de l'armée de Bachar al-Assad près de la frontière. L'offensive d'Ankara vise à instaurer une zone de sécurité de 32 km pour séparer sa frontière des territoires contrôlés par les unités de protection du peuple, une milice kurde qualifiée de terroriste par Ankara, mais soutenue par l'Occident.
La Russie et l'Arabie Saoudite ont signé la charte de coopération OPEP+, rassemblant les pays du cartel et 10 autres non-membres. L'accord a été scellé dans le cadre d'une visite de Vladimir Poutine à Riyad. Et le Nobel d'économie a été attribué à 3 chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté. La franco-américaine Esther Duflo, son mari américain d'origine indienne Abhijit Banerjee et l'américain Michael Kremer ont étudié sur le terrain des programmes pour les populations locales. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, l'actualité économique présentée par Nani Talani.
Le projet de minerai de fer Nimba en Guinée obtient le feu vert pour ses exportations via le Libéria grâce à un accord entre les deux pays. Un projet de graphite appartenant à SRG Mining et un projet de Zali Mining pourraient également être exportés via le Libéria. Zogota, un gisement voisin, a déjà négocié un accord prévoyant l'exportation par le Libéria. Mais Nimba et Zogota doivent encore passer des accords avec l'allemand ArcelorMittal, unique concessionnaire ferroviaire du Libéria, pour leur permettre d'utiliser ses infrastructures. Le Nigeria maintient la fermeture de ses frontières terrestres jusqu'à nouvel ordre. Pour le chef des douanes nigérianes, Ahmed Ali, l'interdiction d'importer et d'exporter des marchandises à travers les frontières terrestres de son pays durera aussi longtemps qu'il le faudra pour pousser les pays voisins à endiguer la contrebande. Le Nigeria a décidé de fermer ses frontières le 19 août dernier. Pour terminer, le Zimbabwe veut plus que doubler sa production de diamants d'ici 2023 et engranger 12 milliards de dollars par an. De 3,2 millions de carats l'an dernier, le pays veut produire 11 millions de carats. Pour accroître la production de diamants, le Zimbabwe compte sur 4 sociétés dont Alrosa et Engine qui appartiennent à la société chinoise. Alrosa prévoit de commencer à prospecter et à extraire des diamants, principalement dans la région orientale de Tchadzoua.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
En football, le tournoi de l'UEFOA a rendu son verdict hier à Thiès.
Oui, le pays hôte, le Sénégal, est sorti vainqueur grâce à sa victoire en finale au tir au but 3-1. Face au Ghana, le tenant du titre, dans l'autre finale dénommée plate, la Guinée est sortie vainqueur devant le Cap-Vert, toujours au tir au but 4-3, après un match nul de 0 but partout au terme des prolongations.
On jouait aussi des préliminaires retour de la CAN 2021.
Le Tchad s'est qualifié pour la phase de groupe de ses éliminatoires en écartant le Libéria au tir au but, tout comme la Gambie face à Djibouti. Qualification également du Soudan du Sud, deux fois victorieux des Seychelles et de Sao Tomé face à l'île Maurice. Dans un mois, la phase de groupe de ses qualifications débutera avec les premières et deuxièmes journées programmées entre le 11 et le 19 novembre.
Les équipes qui ne sont pas concernées par ces éliminatoires s'affrontaient en amical.
À Porto Novo, le Bénin a été accroché par la Zambie 2-0. On note la belle victoire de la Côte d'Ivoire 3-1 devant la RDC. Victoire également de l'Afrique du Sud 2-1 face au Mali. L'Ouganda a assuré en Éthiopie 1-0 tandis que le Kenya s'est incliné à domicile face au Mozambique. Et puis comme le Sénégal, le Nigeria a tenu en échec 1-1 le Brésil. Belle victoire également pour la Centrafrique 2-0 devant le Niger à Niamey.
Rudy Garcia a été nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
L'ancien entraîneur de Marseille, de l'AS Rome et de Lille a signé un contrat jusqu'en juin 2021. Il succède ainsi au Brésilien Silvinho, écarté de son poste le 7 octobre pour insuffisance de résultats alors qu'il était sur le banc lyonnais. Seulement depuis le début de la saison, Rudy Garcia aura pour charge de redresser le club lyonnais. Au terme d'un début de saison difficile, l'OL est 14e de Ligue 1. Avec seulement un point d'avance sur l'avant-dernier Dijon, Rudy Garcia a notamment atteint la finale de la Ligue Europa, perdu à Lyon contre l'Atlético Madrid en 2018.
Pour finir en athlétisme, Kosgei bat le record du monde féminin.
La Kenyane Brigitte Kosgei a explosé le vieux record du monde de Paula Radcliffe à Chicago au lendemain de l'exploit de son compatriote Eliud Kipchoge qui est passé sous la barre des 2 heures. Kosgei, 25 ans, n'a bénéficié que de l'aide de 2 lièvres sur la quasi-totalité de la course pour boucler la distance en 2h14 minutes 4 secondes.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Guinée, au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées. Nous avons un nouveau bilan des blessés par balle. On parle de 4 morts à présent, dont un gendarme. Des heurts entre manifestants et policiers ont eu lieu dans plusieurs zones de la capitale, alors que des opposants au troisième mandat du président Alpha Condé contestaient dans les rues. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
L'autoroute Fidel Castro, presque déserte. Seulement quelques motos étaient visibles le matin. Station-service, banque et plusieurs boutiques n'ont pas ouvert. Aboubakar est l'un des premiers Guinéens à répondre à l'appel du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution.
Il travaille, il n'est pas travaillé. Nous, on ne demande pas le troisième mandat. On attend la mobilisation.
Plusieurs heures après, aucun mouvement, aucun regroupement sur l'autoroute. De l'autre côté de la ville, une fumée noire flotte au-dessus de Koza, un quartier de la banlieue. Des jeunes, visiblement en colère, ont barricadé la route et brûlé des pneus sur la chaussée. Plus loin, vers la haute banlieue, Wanindara, sur l'axe Le Prince, était en ébullition. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Fatmata Binta Diallo, députée UFDG, principal parti d'opposition.
Il a juré par deux fois de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Il sait qu'il refuse d'installer la haute cour de la justice pour ne pas qu'on l'arrête, parce qu'il sait que c'est la haute cour de la justice qui doit l'interroger.
Un médecin installé dans le quartier, joint par VOA Afrique, parle de 2 blessés par balle. Des manifestations une semaine seulement après la rentrée scolaire. Pour ces Guinéens rencontrés sur l'autoroute Fidel Castro, le FNDC avait une autre option.
Ils n'ont qu'à arrêter les grèves pendant les moments de cours et laisser les enfants étudier. Parce que tous ceux qui font de la grève ici, leurs enfants sont à l'extérieur.
Si les politiciens savaient au moins combien de fois nos parents, nos mamans souffrent à la maison pour avoir un peu d'argent pour aller payer les frais de nos soeurs et puis nos frères, ils n'allaient pas demander à sortir dans la rue. C'est pas ici qui va résoudre nos problèmes. Ils n'ont qu'à aller à la table, négocier.
Samedi, le coordinateur national du Front National pour la Défense de la Constitution et plusieurs autres membres du mouvement ont été interpellés. Des arrestations qui n'ont pas empêché Mori Kourouma de protester, mais pacifiquement.
Le pays n'a pas besoin de ça, on a besoin de l'alternance. Quand on dit démocratie, on doit accepter la démocratie avec ses principes. Et aujourd'hui, on voit que le président veut un peu venir ici, passer un peu quelques règles de la démocratie, parce qu'il ne veut pas respecter l'alternance.
Plusieurs chefs des partis d'opposition, confinés à leur domicile, ont fait le bilan de cette journée de manifestation. L'ancien Premier ministre Sidi Touré parle de succès. Selou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, déplore une vingtaine de blessés.
Les citoyens guinéens ont répondu massivement aux mots d'ordre du FNDC. Malheureusement, comme d'habitude, les forces de l'ordre ont fait usage de leur armée. Il y a une vingtaine de blessés par balle, un mort et 2 dans un état très critique.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, après 3 jours d'échanges et de concertations, le dialogue politique qui a réuni 8 partis s'est achevé sur 18 recommandations que le président Patrice Talon a accepté de respecter scrupuleusement pour le retour définitif de la cohésion sociale. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Des élections générales anticipées en 2020 ou 2021, le toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral, la libération de certains prisonniers impliqués dans la crise électorale, l'abandon des poursuites contre certaines personnalités. Voilà quelques-unes des recommandations issues du dialogue politique national qui a eu lieu à Cotonou. Les participants aux assises ayant pour but de contribuer au retour de la paix ont aussi plaidé pour la représentativité des femmes au sein des instances de décision et au financement des partis politiques. Le président Patrice Patrice Talon au cours de son discours et les efforts fournis par les 96 délégués.
C'est avec grand bonheur que je viens de suivre de recevoir le rapport de vos assises dont les conclusions me convainquent une fois encore que nous sommes un grand peuple et que nous savons nous montrer à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il nous suffit de le vouloir et de nous mobiliser pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire notre grande cause.
De leur côté, les forces de la résistance ont aussi tenu une assise qui a pris fin samedi sur des recommandations à l'opposé de celle sortie du dialogue politique national. Pour l'opposition réunie autour de Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président du Bénin, la dissolution de l'Assemblée nationale est une exigence préalable au retour de la paix.
L'abrogation des lois portant charte des partis politiques et code électoral. La dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en place d'un organe faisant office de parlement transitoire. La reprise des élections législatives pour donner la parole au peuple et lui permettre de choisir ses représentants. L'amnistie générale pour les exilés et détenus politiques. La restitution des dépouilles mortelles de nos compatriotes assassinés à leurs familles respectives afin de leur permettre de faire le deuil des disparus.
Même si certains semblent espérer des lendemains meilleurs après ce dialogue politique national, beaucoup pensent que dans la situation actuelle, on ne saurait parler de dialogue lorsque certains sont toujours hors du pays et d'autres mécontents. Alessandre Rontondi est ancien ministre de Yaïboni et membre des FCBE.
Le prédécesseur de M. Patrice Talon est dehors. Celui qui est venu troisième immédiatement après lui à l'élection présidentielle est dehors. Et beaucoup d'autres sont en prison et on dit qu'on dialogue autour de quoi? Qui sont ceux qui parlent aujourd'hui? Et c'est pourquoi je dis, là, nous continuons la tragédie. Et c'est pourquoi j'invite tous les Béninois, à l'occurrence les jeunes gens, à pouvoir dire ensemble et à l'unisson non, soit à la dictature qui est installée dans notre pays.
Une fois le dialogue passé, Patrice Talon est entendu sur le chantier des recommandations dont le respect prouvera sa bonne foi à instaurer un climat de paix et de confiance au Bénin. De Cotonou, Sinet Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les initiatives se multiplient pour apaiser la situation à Sévaré, dans le centre du Mali. Après la réunion d'urgence qui s'est tenue au gouvernorat, une délégation de la société civile s'est rendue aujourd'hui au siège de la MINUSMA, la mission onusienne dans le pays, avec pour objectif de présenter à nouveau les excuses de la population de Mopti. Le point avec notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Après le saccage de l'entrepôt de la MINUSMA, des rencontres se multiplient. Ce face-à-face entre des membres de la société civile et la MINUSMA a un objectif clair, précise Mme Diallo Tata Touré, présidente de la coordination régionale des organisations de la société civile.
Venez vous exprimer toute notre compassion, nous vous témoignons notre affection et vous demander mille fois pardon. Parce que ce qui s'est passé, ça n'honore personne au Mali. Ça ne nous honore pas du tout. Ni dans notre région, ni dans notre pays, ça ne nous honore pas. C'est regrettable. Il faut que nous venions vous présenter les excuses au nom de toute la population de la région de Mopti pour ce qui s'est passé.
La chef de la mission onusienne à Mopti s'est dit très touchée et honorée par cette démarche mopticienne. Fatou Dieng Tiam.
Nous, ce que nous voulons dire, c'est que nous remercions d'abord les autorités, le gouverneur pour nous avoir accompagnés dans et la police locale, la gendarmerie qui a accompagné vraiment la MINUSMA pour mettre fin aux troupes que nous avions connu, mais aussi remercier leur démarche parce que c'est une démarche très noble qui nous honore. Nous, on a reçu beaucoup de signes de compassion. Nous savons que c'est des agitateurs manipulés qui ont fait ce qu'ils ont fait, mais que Mopti est derrière la MINUSMA et la MINUSMA continuera d'être derrière Mopti pour les accompagner dans le cadre de son mandat.
Auparavant, une réunion d'urgence est convoquée par le gouverneur de la région. Le général Abdoulaye Cissé a saisi l'occasion pour annoncer des mesures prises le jour des événements.
À partir d'aujourd'hui, un couvre-feu est instauré à Sévary. À partir de 18h, de 18h à 6h du matin, toute personne qui bouge doit se faire munir d'une pièce d'identité. Il faut qu'on sache finalement ce qui se passe à Sévary. On ne peut pas comprendre qu'à chaque fois, pour des questions d'humeur, les gens sortent comme ça pour semer le désordre. Force doit rester à la loi. Il y aura un couvre-feu. J'avertis les uns et les autres. Il faudra que on le sache que ça ne sera pas le laisser aller.
Dans la ville de Sévaré et Mopti, un calme précaire régnait ce lundi matin. La population a vaqué librement à ses occupations sans être inquiétée. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
En Tunisie, l'universitaire Kaïs Sayed a été proclamé président élu de la Tunisie par l'instance chargée des élections. Considéré comme un novice du pouvoir, il est conforté avec 72,71% des voix lors du second tour de la présidentielle dimanche. Pour un commentaire, Eric Manirakiza, adjoint à Tunis, le président du parti État Katol, Khalil Zawiya.
Ce n'est pas tout à fait un inconnu, puisque c'est un juriste, enseignant universitaire, qui depuis 2011 a participé au débat public sur la période de transition de manière régulière et qu'on voyait dans tous les médias. Deuxièmement, lui, il proposait quelque chose de nouveau face à l'échec de l'ensemble de la gouvernance qui a eu en Tunisie depuis 2011, donc un nouveau concept de gouvernance et qui a ramené vers lui les jeunes. Ce n'est pas par hasard et ce n'est pas fortuit face à la crise politique de la coalition au pouvoir et crise sociale que vit le pays, il a su rassembler les jeunes qui ont été un petit peu le dynamo de sa réussite.
C'est une lourde responsabilité quand on sait que les espoirs de la révolution ont été déçus. Est-ce qu'il pourra répondre aux attentes aiguisées ?
Ça sera difficile certainement. Mais il a aujourd'hui une légitimité tellement importante que tous les intervenants politiques devront tenir compte de ses propositions. Lorsqu'on a eu 45% de l'ensemble du corps électoral et plus de 70% de ceux qui ont participé aux élections, ça fait une force, une légitimité populaire tellement importante que l'ensemble des intervenants et des partis politiques qui compose la nouvelle assemblée devront en tenir compte. Il a eu un nombre de voix beaucoup plus important que l'ensemble des partis politiques réunis. Et là, ça lui donne une marge et une puissance de légitimité notable.
Justement, est-ce qu'il sera facile de former son gouvernement ?
Ça va être difficile de former le gouvernement. Il faudrait qu'il y ait un consensus très large. Et puis le parti NAB qui est arrivé en premier est un parti qui est très contesté. Donc la classe politique se méfie de ce parti, et ce qui fait que les conditions que pose chaque parti pour participer au futur gouvernement sont trop dures. Et donc les possibilités de composer un gouvernement stable et avec un programme bien établi et bien fait va être difficile. On risque fort de se retrouver dans l'éventualité de nouvelles élections parlementaires vu l'impossibilité de mettre en place un gouvernement.
C'était Khalil Zawiya, président du parti État Katol en Tunisie. C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Lionel Gaïma et Justin Touetz. À la présentation, c'était Nathalie Barge. On se retrouve dans un instant pour un rappel des grands titres de l'actualité. À tout de suite.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.